VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire. Israël a annoncé ce lundi avoir annulé son projet controversé d'expulsion de migrants africains. L'État hébreu dit avoir signé un accord avec l'ONU pour la réinstallation d'une partie de ces migrants dans des pays occidentaux. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et Israël sont arrivés à un accord permettant le départ d'au moins 16 250 migrants africains vers des pays occidentaux, tandis que l'État d'Israël réglera le statut de ceux qui resteront sur place, indique un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Tension au Sahara occidental. Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir alerté le Conseil de sécurité de l'ONU après ce qu'elles ont appelé des incursions gravissimes du front Polisario dans la zone tampon dans l'ex-colonie espagnole. Plus de détails avec Anastasie Toudièche.
Le Maroc accuse le Front Polisario, indépendantiste soutenu par l'Algérie, de mener des incursions dans la zone tampon près de Guerguerat à la frontière avec la Mauritanie. Le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé. Le Maroc en contrôle 80%, le Front Polisario 20%. Les deux zones sont séparées par un mur et une zone tampon contrôlée par les casques bleus. Il y a eu des provocations, des manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone tampon, a déclaré le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita lors d'une conférence de presse. Le Maroc réagira avec détermination et par tous les moyens à toutes les actions qui pourraient changer le statut de cette zone. Il s'agira d'un casus belli dont le Maroc tirera tous les enseignements, a prévenu M. Bourita. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé fin mars à l'envoyé spécial pour le Sahara occidental de poursuivre les discussions sur une relance de négociations visant à régler le différend autour de ce territoire. Aucune date n'a été annoncée pour reprendre des pourparlers formels, les derniers en date, sous l'égide de l'ONU, remontant à 2012.
Éthiopie, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi ce lundi par le Parlement. Monsieur Abiy, 42 ans, est issu de l'ethnie Oromo, à l'origine du mouvement de contestation antigouvernementale qui a conduit à la démission de son prédécesseur à la tête du gouvernement, Haïlé Mariam Dessalegn. Dans son discours d'investiture, le nouveau Premier ministre a adopté un ton conciliant envers l'opposition et le voisin érythréen, faisant référence aux personnes blessées ou emprisonnées lors des manifestations antigouvernementales. Abiy Ahmed a déclaré, je cite, « Je demande pardon du fond du cœur ». Mais il n'a pas indiqué s'il comptait lever l'état d'urgence réinstauré au lendemain de la démission de son prédécesseur. Concernant l'Érythrée, ennemi juré de l'Éthiopie, M. Abiy s'est dit prêt à résoudre les divergences bilatérales par la négociation. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments, a-t-il souligné. Tchad, le président Idriss Déby Itno rencontre demain des représentants de la société civile. Les résolutions du Forum national seraient au centre de cette rencontre, selon les observateurs. Mais côté opposant, le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, principale plateforme de l'opposition, a déjà rejeté les résolutions du Forum national qui prévoient l'instauration d'un régime présidentiel. Le point avec Idriss Fall.
Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement condamne et rejette toutes les résolutions grossières, ridicules et fantaisistes issues du Forum national tenu fin mars, selon le communiqué du FONAC qui regroupe une trentaine de partis. D'après cette coalition de l'opposition, le prochain passage à un régime présidentiel intégral va renforcer les pouvoirs du président tchadien. Idriss Déby, 65 ans, est à son cinquième mandat qui s'achève le 21 août 2021. Selon la nouvelle constitution, il pourrait se représenter en 2021 et théoriquement effectuer deux autres mandats de 6 ans jusqu'en 2033. Le Tchad a adopté mardi un régime présidentiel au cours d'un forum national boycotté par l'opposition. Le FONAC réitère son appel à la tenue d'un dialogue inclusif pour l'opposant Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, quelques apparences restées. Maintenant, c'est un pouvoir sans partage.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
région des Grands Lacs en Afrique, environ 1600 Burundais qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo avant de passer au Rwanda début mars sont maintenant de retour au Burundi après avoir été renvoyés dans leur pays hier dimanche par les autorités rwandaises. D'après Kigali, les intéressés refusaient pour des raisons religieuses les enregistrements biométriques et les vaccinations. Les précisions avec Timothée Donangmaï.
Ces réfugiés se trouvaient à Gachora, dans le sud-est du Rwanda. Ils ont été acheminés au poste frontière de Gasenyi-Nemba, dans le nord-est du Burundi. En 2015, plus de 2500 Burundais s'étaient réfugiés à Kamanyola, en RDC, à la suite de tirs de la police burundaise à Busindi. Selon les Nations Unies, à la mi-septembre, au moins 38 Burundais ont été tués par l'armée congolaise. Le reste des réfugiés s'étaient donc rendus à pied au Rwanda pour demander l'asile le 7 mars. Le gouvernement rwandais les avait placés dans 3 sites de transit. Mardi dernier, une trentaine de réfugiés ont été arrêtés après des échauffourées avec des agents du HCR qui tentaient de les enregistrer. Selon le ministère rwandais des Affaires étrangères, ces réfugiés ont refusé l'enregistrement biométrique et les règles de santé comme la vaccination des enfants de moins de 5 ans en invoquant leurs croyances religieuses. La majorité d'entre eux sont des adeptes de la prophétesse Zébia qui assure avoir eu des visions de la Vierge Marie dans le nord du Burundi.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, au moins 18 morts et 84 blessés dimanche soir. Tel est le bilan d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre Maïdougouri, la grande métropole du nord-est du pays et chef-lieu de l'État de Borno. Cette incursion de grande ampleur s'est déroulée aux alentours de 20h30 heure locale, 19h30 temps universel, et les combats entre l'armée et les membres du groupe djihadiste ont duré près d'une heure. Les combattants ont notamment tenté de pénétrer à Maïdougouri en attaquant une base militaire à l'entrée de la ville avec des kamikazes et d'autres éléments armés. Burkina Faso, une banque spécifiquement dédiée au secteur agricole dans le pays. La Banque pour le financement de l'agriculture arrive à point nommé pour un État qui tire une grande partie de ses richesses de l'activité agro-pastorale, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Le monde rural aujourd'hui, c'est 80% de la population burkinabé, avec comme activité principale l'agriculture et l'élevage. Un secteur agricole, deuxième pourvoyeur de devises après le secteur aurifère, et qui vend en cette banque tout un soulagement pour l'ensemble de ce monde rural, se réjouit Bassiaka Daou, président de la Confédération paysanne du Faso.
Ce rêve-là, nous l'avons entamé depuis 1993, à la première journée nationale des paysans à Léo, où nous avons demandé au chef de l'État de créer une vraie banque agricole. Je pense qu'aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Réalité en ce sens que la banque vient d'avoir son agrément. Ça fait une fierté aux paysans de voir aujourd'hui qu'on a mis à leur disposition un instrument de financement de leurs activités.
Le secteur agricole ne bénéficie que de 15% actuel du financement bancaire traditionnel. Un état de fait qui a incité le gouvernement à aller vite afin de faire face au faible taux de financement de ses activités agro-pastorales en créant cette banque qui y est exclusivement dédiée, explique le Premier ministre Paul Kabatieba.
La particularité de la banque agricole du Faso, c'est que c'est une banque qui est conçue pour les paysans, pour l'agriculture, pour l'élevage. Il va sans dire que ce n'est pas une banque comme les autres. Ce n'est pas une banque universelle comme les autres. C'est une banque dont la vocation, c'est de procéder donc à la transformation de l'économie burkinabé.
La banque agricole du Faso, qui va disposer d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA, pourra véritablement doper les activités du secteur agricole, espère le président de la Confédération paysanne du Faso, Bassaka Daou.
Cet instrument-là est important pour nous. Dans le sens, dans tous les documents, on dit que c'est une agriculture de subsistance. Or, aujourd'hui, avec des financements, je pense que nous allons passer à l'entrepreneuriat agricole et aller au-delà. Nous pensons qu'avec cet instrument, notre agriculture va sortir de l'ornière de la pauvreté. Et avec cet instrument, nous allons redynamiser toutes nos coopératives pour permettre à nos acteurs d'être des acteurs économiques et avoir des revenus décents.
Depuis la belle aventure de la Caisse nationale de crédit agricole dans les années 80 et qui s'est vite terminée pour des raisons encore inexplicables, la renaissance du secteur agricole et activités connexes vont connaître une certaine embellie avec cette banque dont l'agrément a été octroyé le 14 mars dernier par la commission bancaire de l'UEMOA et qui devrait pouvoir commencer à fonctionner dans seulement quelques mois. Koumourewa Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Relations États-Unis-Chine pour terminer. Pékin annonce ce lundi des mesures de rétorsion contre 128 produits américains en réponse à l'annonce par le président Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois importés aux États-Unis. Des représailles qui font craindre un conflit commercial ouvert entre les deux géants économiques mondiaux.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.